Tu t'es sûrement déjà fait dire par les gens après en avoir gagné une médaille olympique, tu sais, oh, mais t'as plus rien à prouver à personne, mets-toi en pas de pression, tout ça. Mais comme, on n'apprend pas comment ne pas s'en mettre de la pression, tu sais, on ne sait pas comment, tu sais, puis c'est tellement difficile à faire.
Bienvenue à Propulsion, un balado réalisé par le Comité olympique canadien. Au cours de cette saison de Mon Parcours, nous entendrons les histoires de quelques-unes des femmes les plus inspirantes d'Équipe Canada, alors que nous tournons notre attention vers les Jeux de Paris 2024. Je suis votre animatrice, Justine Dufour-Lapointe, et j'ai représenté le Canada lors de 3 Jeux olympiques d'hiver aux épreuves de boss de 2014 à 2022. Ayant performé sur la scène mondiale, je connais les hauts et les bas de la vie d'athlète d'élite, en particulier à l'approche des Jeux olympiques. J'ai tellement hâte de partager avec vous les parcours de ces athlètes exceptionnels et de célébrer ensemble les femmes incroyables d'Équipe Canada. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec la nageuse olympique Catherine Savard. Triple olympienne, connue pour ses performances dans les épreuves de papillon et de nage libre. Elle a représenté le Canada dans de nombreuses compétitions internationales, notamment aux Jeux olympiques, aux championnats du monde et aux Jeux du Commonwealth. Catherine a remporté une médaille de bronze au relais 4 x 200 mètres nage libre aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Sa performance aux Jeux olympiques a été particulièrement remarquable puisqu'elle a décroché la première médaille du Canada dans cette épreuve depuis 1976. Catherine a également excellé sur le plan académique, conciliant son horaire d'entraînement rigoureux avec ses études à l'Université Laval en enseignement. Depuis 7 ans, Catherine enseigne au primaire en tant que suppléante. Nous avons parlé du fait qu'en tant qu'athlète, on a tendance à se former une identité étroitement liée à notre sport et que c'est parfois très difficile de s'en séparer et même de savoir qui on est en dehors de ce contexte sportif. Évidemment, c'est très normal parce qu'on commence si jeune à se dédier à notre sport. Salut Catherine, comment ça va?
Ça va bien, merci. Et toi?
J'aimerais qu'on commence par apprendre à te connaître, apprendre à savoir d'où vient ton amour pour la natation.
Ça n'a pas été un amour qui a été présent dès le début. J'ai commencé à faire de la natation parce que ma mère, elle avait peur de l'eau. Elle a vécu un espèce de petit traumatisme quand elle était jeune. Puis c'était vraiment important pour mon frère et moi d'apprendre à nager. Même, je me rappelle, quand on était très jeune, on n'avait même pas le droit d'aller chez nos amis s'il y avait une piscine, tant qu'on ne savait pas nager, tu sais. Donc, c'est un peu dans ces circonstances-là que je me suis initiée à la natation. Puis, ça m'a pris du temps à aimer ça. Je pense que j'ai commencé à aimer ça parce que je me suis fait des amis là-dedans. Puis, c'est quand on est rentré au secondaire, là, on parle de plus comme vers l'âge de 12 ans, j'ai une amie qui a déménagé à Québec, puis qui est rentrée dans un sport-études. Puis, ses performances ont vraiment augmenté de façon fulgurante. Puis, c'est comme si dans ma petite tête d'ado, je me suis dit, ben moi aussi, je veux devenir bonne, tu sais. Puis, c'est là que tout a commencé, en fait, là.
Puis c'est quoi au début, mettons, que t'aimais vraiment puis que t'aimais vraiment pas quand t'étais jeune à ce niveau-là?
Ben, je pense que j'ai toujours été une personne quand même un peu insécure. En fait, ça m'a pris du temps à me sentir valorisée dans quelque chose. Puis je pense que les performances en natation sont venues. Puis je pense qu'en fait, je me suis trouvée là-dedans. Je me suis trouvée en tant qu'adolescente. Puis... je me suis valorisée beaucoup au travers les performances que j'avais dans la piscine. Puis, tu sais, j'en ai parlé même récemment avec ma mère. J'étais une personne qui était très, très, très réservée, puis j'osais pas beaucoup de choses. Puis vraiment, quand j'ai commencé à avoir un certain succès, quand j'ai découvert que j'avais un certain talent dans le sport, je pense que c'est ce qui m'a aidée à devenir ce que je suis, tu sais.
C'est comme tellement drôle, j'ai l'impression que c'est un stéréotype. On s'imagine que tous les Olympiens sont nés comme ça, sont nés avec un but, sont nés avec un rêve. Puis c'est pas toujours comme ça que ça se passe. À quel âge tu t'es dit, mais OK, les Jeux olympiques, ça arrive pour moi, mettons?
L'année avant, mes premiers Jeux, vraiment.
Arrête!
Là, un peu, pour vrai, tu sais, je veux dire, avant l'âge de 14 ans, je m'entraînais une fois semaine dans mon club de ma ville natale, à Pont-Rouge. C'est quand j'ai déménagé en sport-études, secondaire 2, donc, tu sais, 13-14 ans que j'ai commencé à m'entraîner. Puis, bon, c'est sûr qu'il faut dire que probablement que j'avais un certain talent pour ce sport-là, parce que je pense que les performances sont arrivées très rapidement. Non, vraiment. Même quand je suis arrivée en sport-études, les entraîneurs ne voulaient même pas me prendre parce que vraiment, j'avais pas les capacités, mais j'avais pas les caractéristiques physiques typiques d'une nageuse internationale. Puis en plus, je commençais très tard. Fait que pour eux, il était comme trop tard pour commencer à cet âge-là pour voir un certain potentiel. Mais je pense que j'avais une espèce de petit caractère de cochon qui m'a permis, en fait, d'atteindre ce niveau-là. Puis ben, j'ai fait mes premiers Jeux olympiques à 18 ans. Puis c'est l'année d'avant que j'ai battu le record canadien, puis que c'est là que j'ai réalisé que j'étais la meilleure au Canada, que j'aurais des chances de faire l'équipe olympique l'année d'après, tu sais. Fait que c'est à peine quelques mois avant que j'ai réalisé mon potentiel de faire ça.
C'est complètement que... fou.
Ouais.
C'est fou, vraiment.
Ben, oui, en fait, c'est, je pense que quand j'ai commencé à avoir un certain potentiel, je visais vraiment les Jeux de 2016, qui étaient un peu plus tranche d'âge. Et en fait, je me suis mis à rêver à ça l'année que j'ai battu le record canadien. Puis finalement, ben ça s'est passé un peu plus rapidement. Tu sais, je les ai fait en 2012 pour la première fois. Puis ben ça m'a propulsé dans la scène internationale un peu plus tôt, mais ça l'a fait de ma carrière qu'est-ce qu'elle est en ce moment.
Parlons-en d'abord de Londres 2012. Tu l'as dit, ça t'est arrivé. T'es arrivé là avec même pas, on dirait, un an de préparation mentale à t'y rendre. Mais c'était comment l'expérience à tes premiers Jeux?
Mon Dieu! Je pense que quand je le prends avec du recul, je pense que j'étais peut-être pas assez mature émotionnellement pour vivre des Jeux olympiques. Moi, je me sentais vraiment intimidée. Je pense que je me revois à 18 ans, puis j'ai été propulsée là avec aucune expérience vraiment internationale avant. Je me rappelle juste d'être sur le bord de la piscine, puis de regarder toutes les nageurs, puis d'être en admiration avec eux. Tu sais, je pense que je me sentais pas à ma place. Je me sentais plus comme un imposteur. Là, je pense pas que j'étais prête nécessairement à être sur cette scène-là. Mais je pense, par exemple, de l'avoir vécu en 2012 à 18 ans, ça m'a préparée pour le vivre en 2016. Puis j'ai eu, mettons, une meilleure expérience en 2016, des meilleures performances aussi. Puis j'en tire des meilleurs souvenirs. Mais en même temps, si ça avait pas été 2012, peut-être que je les aurais pas vécu pareil après, tu sais.
Non, c'est sûr. Ben quand je regarde ton palmarès, en 2015, l'année avant Rio, tu avais remporté 3 médailles aux Jeux panaméricains consécutifs. C'était énorme, là. J'imagine que tu devais te sentir sur ton X avant Rio.
Ben je pense que ça a commencé peut-être, mettons, en 2014. J'avais gagné la médaille d'or aux Jeux du Commonwealth. Je pense que ça, c'était comme mes premières médailles internationales. Puis, c'est là que je me suis sentie, oui, en effet, plus dans mon chemin. Là, moins imposteur, un peu, si on peut dire ça comme ça. Mais, tu sais, encore là, ça a été... autant je me sentais, comme tu dis, un peu plus sur mon X, mais mon parcours de 2016 a été finalement... complètement l'inverse, puis rempli de surprises, dans le fond. C'est qu'en 2012, j'avais fait l'équipe olympique au 100 mètres papillon. Ma médaille d'or au Jeux du Commonwealth, j'avais gagné au 100 mètres papillon. Bref, j'avais le record canadien au papillon depuis toutes ces années-là. Je m'entraînais que pour le papillon. Puis je pense que je me suis mis beaucoup, beaucoup de pression à me dire « J'ai fait les Jeux olympiques en 2012, là, je me dois les faire en 2016. » Je me suis mis beaucoup de pression là-dessus. On m'en a mis autour un peu sans le vouloir nécessairement. Puis finalement, de là est arrivée la qualif olympique en 2016. Puis je suis arrivée là, puis le papillon, c'est la première journée, première épreuve. Puis je me rappelle être derrière le bloc de départ, puis d'avoir peur d'aller nager, parce que j'avais juste peur de perdre, en fait. J'avais peur de manquer l'équipe olympique, j'avais peur de me faire battre. Puis ben c'est ça qui est arrivé, en fin de compte. Fait que pour faire une histoire un peu plus abrégée, j'ai manqué l'équipe olympique dans ma meilleure épreuve. Je suis arrivée troisième à la qualif olympique de cette année-là. Puis, en fin de compte, je me suis pas classée dans mon épreuve. Puis, c'est finalement 24 heures après que je me suis classée au relais, en fait. C'est une épreuve que j'avais jamais entraînée compétitivement. Bien sûr, on l'entraîne à tous les jours à l'entraînement, mais j'avais jamais mis de focus là-dessus. Puis finalement, je me suis qualifiée à ça. Puis c'est d'ailleurs ce qui m'a apporté ma médaille olympique, en fait. Fait que je pense que ça a été une année de surprise, mettons. Ça a été une année vraiment pas comme je m'attendais. Puis même après la qualif olympique, je me rappelle très bien de m'être dit, tu sais, pourquoi la vie est comme ça, puis pourquoi je vais aux Olympiques dans une épreuve que je connais pas. Puis je me rappelle très bien mon coach à l'époque m'avoir dit « Un jour, tu vas comprendre pourquoi la vie est comme ça ». Puis quand j'ai gagné la médaille olympique, c'est la première personne à qui j'ai parlé au téléphone après. La première chose qu'il m'a dit, puis je pense que c'est quelque chose que je vais me rappeler tout le temps, il dit « Je pense que tu viens de comprendre pourquoi la vie était comme ça ». J'aurais fait le 100 mètres papillon, en fin de compte, j'en aurais jamais eu une médaille olympique. T'sais. C'était tellement mental, une performance, le mais tellement mental. J'ai réussi à faire ma meilleure performance à la qualif olympique, au crawl. Je pense juste que ma tête n'était pas là au papillon. Puis... En effet, je pense qu'il faut faire confiance un peu à ce que la vie présente devant nous. J'en ai tiré beaucoup de leçons.
C'est clair, je veux dire, cette médaille de bronze-là, elle a une teinte très unique parce que j'ai l'impression que tu t'y attendais pas, comme tu l'as dit, c'était une surprise. Mais ouais. Des fois, comme la vie fait bien les choses, puis il n'y a rien qui arrive pour rien.
Oui, c'est beaucoup de surprises en fait parce que la natation n'avait pas l'habitude de gagner beaucoup de médailles avant 2016. Là. Ouais. Surtout chez les femmes, je pense que la dernière médaille qui avait été gagnée datait de 1985. Je pense qu'au Québec, ça faisait 40 ans qu'elle n'avait pas gagné, quelque chose comme ça. Tu sais, on parle de plusieurs années, ouais, plusieurs éditions olympiques. Moi, en tant que nageuse, j'avais jamais eu de modèle canadienne en natation qui gagnait des médailles. Ouais. Fait que je pense que c'était un peu quelque chose qui arrivait aux autres, quelque chose qui était pour les meilleurs. Puis on n'en faisait pas nécessairement partie. T'sais. Puis je me rappelle la première journée de ces Jeux olympiques-là en 2016. J'étais dans les estrades quand le Canada a gagné sa première médaille en natation depuis toutes ces années-là. Puis... je me rappelle très bien être dans les estrades puis me dire, ces filles-là là, qui viennent de gagner, je m'entraîne avec elles tous les jours. Je suis aussi bonne qu'elles, tu sais. Puis je me rappelle très bien dans ma tête, m'être dit, ben moi aussi j'en veux une médaille olympique. Moi aussi j'en veux une, tu sais. Puis c'est comme s'il y a quelque chose qui a switché dans ma tête puis qui m'a fait comme réaliser que j'avais autant de potentiel qu'elles, tu sais. Puis notre épreuve, moi, mon relais était comme quelques jours après. Puis... être dans ce mouvement-là, le mouvement que la natation canadienne a connu dans ces Jeux olympiques-là, ça nous a comme tellement entraînés, puis j'ai vécu quelque chose, en fait. J'ai réalisé aussi mon potentiel, puis j'ai réalisé que si mes amis en gagnaient, ben moi aussi, j'étais capable.
Ah, c'est complètement fou. Je pense qu'on le dit souvent, nous, ensemble, les athlètes, que à ce niveau-là, on est talentueux, on a du talent pour être déjà qualifié pour aller aux Jeux, mais tout se passe dans la tête. Puis là, tu m'en parles, puis je suis complètement sous le choc à quel point c'est tellement juste dans la tête, tout ça, nos performances. Donc, un bel exemple de à quel point il ne faut pas non plus sous-estimer notre mental. Parce qu'évidemment, avec une médaille olympique, vient aussi une pression. Puis je pense que tu en as parlé dans plusieurs entrevues à quel point ton retour des Jeux a été quand même plus difficile pour toi.
Oui, mais en effet, tu sais, entre ces Jeux olympiques-là, ça n'a pas été un parcours nécessairement facile. Si on reparle de cette médaille-là en 2016, c'est comme si mon rêve de petite fille, qui est probablement le rêve de beaucoup d'athlètes olympiques, tu sais, on rêve de gagner cette médaille olympique-là. Est-ce qu'on y croit réellement? Je le sais pas, en fait. Tu sais, je pense que c'était quelque chose qui était tellement comme... c'est pas nécessairement atteignable. Il n'y avait jamais personne qui m'a montré une médaille qui m'a dit, tu sais, c'est possible de le faire, tu sais. Je le rêvais parce que je pense que c'est un rêve que tous les athlètes olympiques ont. Mais en revenant de ces Jeux-là, c'est comme si j'ai pogné un espèce de creux un peu mental de me dire, ben ça s'est pas fait automatique, là. Je pense que ça s'est fait dans une période de 2 ans, tu sais, de revenir à l'entraînement. Puis c'est comme si, là, j'avais l'impression que en effet, j'avais gagné la médaille, donc je me devais de gagner tout le reste que je faisais. On était, mettons, 4 sur cette équipe de relais à avoir gagné une médaille. Fait que c'est comme si je me disais, je peux pas me faire battre par les autres. Là. Fait que je me suis mis la pression. Puis tu sais, c'est personne qui m'a mis cette pression-là. Je pense que ça venait vraiment de moi. Là. Puis c'est comme si, après ça, je me suis dit, mais c'est quoi mon rêve maintenant? Tu sais, j'en ai plus de rêve. Fait que là, c'est comme si je me suis mis à nager juste parce que j'étais une nageuse. Puis, j'en avais plus des rêves, en fait. Moi, j'avais comme gagné une médaille olympique. Les prochains Jeux olympiques étaient dans 4 ans. Je me mettais énormément de pression. Puis, c'est comme si j'avais plus de plaisir à le faire du tout. Fait que j'ai eu un petit creux, là, ces années-là. En 2018, j'ai arrêté de m'entraîner pendant plusieurs mois. C'est comme si j'avais besoin de cette pause-là. Je voulais plus rien savoir de la natation. En fait, quand on m'a sorti du sport, parce que je pense qu'à ce moment-là, j'ai été sortie un peu plus de force, là. Je pense que... parce que j'avais besoin de quelqu'un qui me fasse réaliser que j'étais plus bien dans ça. Puis, tu sais, en fin de compte, j'ai recommencé par après, mais si ça n'avait pas été de cette pause-là que j'ai prise en 2018, j'aurais pas été encore là à 30 ans en 2024.
Ben, je pense que plusieurs autres Olympiens et athlètes se retrouvent dans ce type de parcours-là parce que je pense que tu n'es pas la seule à vivre un peu ce choc-là. Tu sais, tu es un athlète, tu fais ça tous les jours, tu es entraîné pour un but seulement, là, boum, c'est fait. C'est arrivé.
Mais je sais pas toi, là, mais c'est comme si on se donne pas nécessairement le droit de vivre ces émotions-là. Dans le sens où, tu sais, on se dit, on gagne les médailles, on s'entraîne. C'est comme si on se le permettait pas d'être déçu ou d'avoir un creux.
J'ai l'impression qu'on nous apprend comment performer, comment aller gagner des médailles, mais on nous prépare pas à l'après. Puis je trouve que, ben pour ma part, tu sais, j'ai gagné mes premiers Jeux, j'avais 19 ans. À 19 ans, tu n'as aucune idée, là. Ouais, tu ne sais pas comment te gérer. Mais là, il faut que tu sois un modèle pour la Terre entière. Donc, c'est énormément de pression. Puis, je pense que personne n'est prêt à ça. Puis des fois, moi, ce que j'aurais aimé, c'est j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise dans ma carrière, « Hey, je pense que tu peux prendre une année sabbatique. Tu peux prendre une année off pour toi. » Puis des fois, je trouve qu'on ne parle pas assez de ça, de prendre une année off. Mais là, toi, tu l'as faite. Est-ce que tu penses que ça a été la meilleure chose pour toi?
Avec du recul, oui. À ce moment-là, tu sais, à cette époque-là, quand que j'ai pris mon année, je ne pensais même pas revenir. Là, tu sais, j'étais vraiment dans un mindset où j'avais plus de rêve, j'avais plus d'objectifs, j'avais plus envie de nécessairement de me battre, si on peut dire ça comme ça. Mais tu t'es sûrement déjà fait dire par les gens après en avoir gagné une médaille olympique, tu sais, « Ah, mais tu n'as plus rien à prouver à personne, mets-toi en pas de pression, tout ça. » Mais comme... on n'apprend pas comment ne pas s'en mettre la pression. T'sais. On ne sait pas comment. T'sais. Puis c'est tellement difficile à faire. Dans mon parcours, en visant mes quatrièmes Jeux olympiques, il y en a tellement de personnes qui m'ont dit « Ah, mets-toi-en pas de pression, t'as déjà tout réalisé, tout ça. » Mais je suis comme « Mais moi, ça me tient encore à cœur. T'sais. Moi, j'ai encore envie de performer. Ouais. » Puis je ne sais pas comment me mettre dans ma tête. En effet, il ne faut pas que je m'en mette la pression, mais j'en ai en tabarouette de la pression. Je m'en mets là, plus que j'en ai jamais eu. Parce que j'avais tellement envie de le réaliser, mais il n'y a personne qui me dit comme comment je devrais être. Même si on me le dit, je ne sais pas comment je devrais être, tu sais.
Je pense que je te comprends tellement à 100%. Puis, tu sais, c'est pas évident. C'est juste pas simple. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est en fond, tu as pris une pause de presque un an. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé, « Hey, c'est pas fini, moi j'ai encore du juice, j'ai encore envie. » de retourner aux Jeux olympiques? C'est quoi qui a été le moment déclencheur?
Ça n'a pas été immédiatement, là. en fait, vraiment, c'est que dans cette année-là, après ça, quand j'ai pris ma pause, je suis partie, moi, 4 mois en Asie. J'ai voyagé, tu sais, je ne voulais plus rien savoir de la natation, quoi que ce soit. Puis, en fait, c'est quand je suis revenue en septembre, il me restait un an à l'université. Parallèle au circuit olympique, moi, j'ai fait le circuit universitaire aussi. Dans la natation, on peut faire les deux. Donc, je faisais le circuit universitaire, je représentais les Carabins à l'Université de Montréal. Puis, il me restait un an à faire à l'université. Puis, c'est l'entraîneur, en fait, de là-bas qui m'a dit « Ça te tente-tu de revenir avec nous, tu sais, de t'entraîner avec nous juste pour le plaisir? Pas nécessairement pour les médailles. » Il y a encore combien de personnes m'ont dit ça? « Fais-le pour le plaisir. » Je suis rembarquée là-dedans. Puis, c'est comme si là, je me détestais, en fait, parce que là, j'étais encore un pied dehors, un pied à l'intérieur. Mes performances, ils étaient plus comme ils étaient aux Olympiques en 2016. Là, j'étais plus de calibre à gagner des médailles olympiques. Fait que là, on dirait que j'étais tout perdu. Je trouvais ça dur. Puis, à cause que les performances, ils revenaient pas automatiques, mais tu sais, je veux dire, j'avais pris 8 mois, là, c'est normal, là, tu sais. C'est comme si, là, je me mettais à m'en vouloir, puis je croyais plus jamais que ça allait revenir. Puis, c'est à un moment donné, je suis revenue à Québec pendant le temps de Noël, puis j'ai vu mon ancien entraîneur, là, mon entraîneur qui m'avait amené à mes premiers Jeux olympiques à Québec. Puis lui, il m'a brassé là, psychologiquement, je pense que j'avais besoin de ça, mais il m'a carrément dit quelque chose comme « Tu fais quoi là? T'sais, implique-toi dans un, implique-toi dans l'autre, mais là tu fais n'importe quoi, t'as un pied à l'intérieur, t'as un pied dehors, tu fais n'importe quoi. Si t'as envie de nager, il dit « Retrouve-toi des rêves, puis fais-le. »
J'adore.
Ça, je pense que j'avais besoin d'entendre ça à ce moment-là. Puis en fin de compte, c'est ça. J'ai réalisé que, ben dans le fond, j'en avais pas de rêve, j'en avais pas d'objectif. Fait que ça a été un moment qui a été un point tournant. Puis là, je m'en suis retrouvée des rêves, je m'en suis retrouvée des objectifs. Ça n'a pas été de refaire les Olympiques tout de suite, ça a été des petits rêves, des petits objectifs qui ont été peut-être un peu plus graduels. Puis, ben finalement, j'ai retrouvé l'amour que j'avais pour le sport, tu sais. J'ai retrouvé le goût de performer, puis de là sont venus les Jeux Olympiques de 2020-21.
Encore une fois, il n'y a rien qui arrive pour rien. Dans ton cas, c'est vraiment la ligne conductrice. On s'entend, les Jeux COVID, c'était la première fois que ça arrivait. Toute la préparation pour s'y rendre, les qualifications, c'était de vivre dans l'angoisse totale, de vivre dans l'incertitude. Comment tu as vécu ta qualification olympique, puis évidemment, ben, te rendre ben, là-bas?
Même l'année auparavant, du début, ça a été le confinement. Puis là, on était à 2 semaines des qualifs olympiques dans ce temps-là. Tu sais, en février-mars, là, on est... Fait que là, nous, on fait juste entendre que tout va être fermé. Fait que là, nous, il y a comme, comment on va s'entraîner? Tu sais, il faut s'entraîner. On nage dans 2 semaines pour la qualif olympique. Mais après ça, j'étais assise dans mon salon, moi, quand le Canada a annoncé qu'il n'enverrait pas les athlètes aux Jeux olympiques. Fait que là, c'était comme la panique. Mais tu sais, en fin de compte, tout s'est placé, tu sais, on a compris pourquoi, on a compris que c'était dans l'intérêt de tout le monde, puis que finalement, on a su que les Jeux olympiques avaient juste à être déplacés d'un an. Fait que, tu sais, on en a parlé beaucoup sur les médias sociaux, tout ça, de voir toutes les athlètes qui s'entraînaient dans leur salon, qui s'entraînaient, tu sais, à faire un peu de tout autrement. Ben moi, ça m'a motivée, puis j'avais envie de faire partie de ça aussi. Fait que c'est sûr que nous, quand on était en mars, quand il n'y a plus rien d'ouvert, on peut pas bien aller dans les lacs en mars, on peut pas bien nager, tu sais, à nulle part, là. Fait que ça a été un peu de se réinventer en tant qu'athlète. Cette année-là, j'ai eu des personnes qui ont été incroyables pour moi, en fait. Il y a un club piscine à Québec qui m'a ouvert un bassin dans un entrepôt.
Wow!
Pendant que le magasin fonctionnait, les magasins étaient encore ouverts de 10 à 5 heures, là. Fait que là, moi, pendant ce temps-là, j'allais nager sous toute légalité, là. J'allais nager dans leur bassin chauffé, attacher une corde. Après ça, un peu plus tard...
Okay, ça, c'est vraiment très cool, là.
Fait que oui, j'étais dans un bassin là, qui était à peu près de ma longueur, là. J'ai attaché une corde parce qu'il fallait que je nage sur place, puis je nageais pendant des heures sur place, là. Puis après ça, un peu plus tard, il y a le Strom Spa à Québec qui m'a chauffé un bassin juste pour moi. Ça a été des moments, en fait, quand je vais m'en rappeler toute ma vie, là. Pour vrai.
J'adore, c'est parfait. Ouais. Tout sauf ce qu'on s'imagine d'une préparation olympique, c'est pas linéaire du tout. Est-ce que ça t'a apporté justement une espèce de gratitude de plus quand t'es arrivée à tes troisièmes Jeux?
Mais dans le sens où j'ai une gratitude pour toutes les gens qui m'ont accompagnée dans ce processus-là. T'sais, je veux dire, j'ai eu des personnes qui ont été derrière moi, c'était incroyable. Puis le fait aussi que tu sais, j'avais eu quelques années un petit peu plus difficiles entre ces cycles olympiques-là. L'année du surplus en plus, puis ça a été une année où je me suis entraînée par moi-même. Fait que j'avais pas de comparaison avec personne dans la piscine. On n'a pas fait de compétition pendant un an. Puis je suis arrivée à la qualif olympique, puis la seule chose que j'avais, c'était... Qu'est-ce que je savais, c'est que comment moi je m'étais entraînée, je n'avais aucune idée comment les autres étaient. C'est comme si j'étais arrivée là, comme un peu... underground, tu sais, premièrement, il y avait personne qui savait que je m'entraînais encore, que j'étais encore là à cause que j'avais eu l'année auparavant, tu sais, fait qu'il y avait personne qui pensait que j'étais encore là, puis de pas avoir vécu de comparaison, là, je pense que ça a été parfait pour moi, je pense que mon mental, qui a toujours, en fin de compte, été un peu fragile, ça m'a fait que j'étais arrivée aux essais olympiques, puis en fin de compte, j'ai connu ma meilleure année à vie, là, tu sais. Je me suis classée dans mes 3 épreuves. J'ai eu des merveilleuses Olympiques. Finalement, on est arrivé 4e là, au jeu. On n'a pas reproduit de médaille ou quoi que ce soit. Mais en fin de compte, ça a été une année où j'étais bien mentalement, tu sais, parce que j'avais pas eu de comparaison avec personne. Puis je pense que j'avais besoin de ça, tu sais, pour me reconstruire en tant que nageuse. Là.
Est-ce que tu dirais que ça a été tes jeux préférés ou t'es le plus fière de ton parcours personnel?
Le parcours, le cycle olympique dont je suis le plus fière, c'est définitivement celui-là. Là, après ça, avec les circonstances COVID, c'est sûr que ça n'a pas été des Jeux olympiques. Tu dois les avoir vécu aussi, les deux étaient complètement différents.
Oui.
Mais définitivement, c'est le cycle olympique dont je suis le plus fière, par contre. Ouais.
Vraiment. Mais je suis bien d'accord avec ce que tu me dis parce que je trouve que pour revenir un peu au point que tu me parlais tantôt, j'ai l'impression que les Jeux de COVID, on dirait de pas savoir comparer avec personne. Je l'ai vécu un peu dans à mon tour, mais je sais que ça m'avait tellement fait du bien.
C'est fou parce que je suis vraiment sûre que toi aussi, ça a été comme ça. Il y a eu des années où on carburait à cette compétition-là, où on avait besoin de ça pour atteindre ces niveaux-là. Puis, tu sais, je me rappelle, moi, d'être compétitive, puis j'avais besoin de me comparer aux autres, tout ça. Puis, il y a eu des années que, justement, genre, le moins possible, j'ai besoin d'une pause mentale, puis j'ai besoin de savoir que je suis bonne moi-même, que je fais les bonnes choses, puis que j'ai pas besoin de me comparer.
Ben, je pense que ce qu'on, des fois, on parle pas beaucoup, c'est l'évolution juste en tant qu'humain, en tant que personne, en tant que la jeune Catherine qui a commencé à la Catherine de 30 ans, c'est plus la même personne. Puis moi, je l'ai vécu beaucoup dans mon sport où j'ai tellement vu la différence. Quand j'ai commencé à 16 ans, j'étais une boule de feu qui pensait à rien, puis je fonçais. Mais quand je suis rendue à 29 ans, j'ai pas mal plus d'expérience. T'as une nouvelle approche, c'est t'approches plus la compétition de la même façon. Puis je pense que c'est là que des fois il y a un lag où on devrait les préparateurs, les entraîneurs apprendre là-dessus à gérer une athlète qui commence, puis une athlète en milieu de carrière, puis une athlète en fin de carrière, elle a pas les mêmes besoins. Elle a des besoins qui sont différents pour elle. On va pas s'entraîner de la même manière que comme on s'entraînait quand on avait 18 ans. Tu sais, on a plus la même physionomie non plus. Notre corps a changé, mais aussi notre mental a changé. Est-ce que tu penses un peu la même chose que moi?
Tellement. Puis j'ai l'impression que même, tu sais, je pense que ouvertement, les gens commence à en parler un petit peu plus de l'état mental qu'un athlète peut vivre. Mais c'est comme si on parle souvent d'un athlète qui est bien dans sa peau, bien dans sa tête, puis qui va tout performer comme ça. Ou on parle souvent des athlètes qui ont le crash, tu sais, puis que là, on est rendu à en parler parce que ça va pas bien. Mais l'entre-deux, là, on n'en parle pas souvent.
Oui!
Mais il y a personne qui nous apprend que c'est des processus normaux, puis on n'en parle peut-être pas assez, en fait, de ça. Parce qu'on parle souvent, justement, de quand on est rendu dans le crash. Mais de l'entre-deux, là, c'est tough, pareil.
Je pense que l'entourage et ton équipe font une grande partie de ce changement-là, puis de comment on peut encadrer les autres, les jeunes, à passer cet entre-deux-là que tu parles. Par la suite, mais continuons à travers les années, suite à Tokyo, tu as décidé de te rembarquer dans un autre cycle olympique, direction Paris 2024. Comment s'est déroulé ces trois dernières années?
Ça a pris du temps avant que je me l'avoue à moi-même que je veux le refaire un cycle olympique. Il y a un certain âge, à un moment donné, un gap que tu passes où tout le monde te fait sentir que la retraite devrait être bientôt, tu sais.
Ouais.
Puis ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti, tu sais, après Tokyo. Surtout du fait que j'ai comme été une surprise de revenir après 2016. Tu sais, tout le monde avait comme pensé que j'avais arrêté. Puis là, hey non, je suis encore là, tu sais. Fait que c'est comme si après ça, le monde se sont mis à me dire, ah, mais là, c'est-tu fini? Puis là, je me l'avouais même pas à moi-même, en fait. J'avais envie de continuer à nager. Fait que j'étais même pas capable de me l'avouer à moi-même que je me rendais jusqu'à Paris. Mais tu sais, en fin de compte, c'était à l'intérieur de moi. Mais c'est comme si j'osais pas parce que je me dis, les gens, ils vont dire, ouais, mais là, j'avais quoi, 27 ans. Là. Puis en fin de compte, ça a été assez tard, là. Genre, je pense, l'année passée, je me suis convaincue, en fait, de dire à tout le monde que, ben oui, je m'en vais jusqu'à Paris, tu sais, puis c'est ce que je fais. Puis c'est comme si j'ai commencé à en parler, sans m'ouvrir, pardon, sur le fait que j'aimerais ça être la première nageuse canadienne à faire 4 Jeux olympiques. Puis encore là, c'est comme si je me donnais une raison de performer, parce que c'est comme si je m'autorisais pas à aimer ça, puis à continuer à le faire juste parce que j'aimais ça, tu sais.
Quel plaisir de m'entretenir avec Catherine. Elle m'a beaucoup appris sur sa motivation en tant qu'athlète et aussi les facteurs qui peuvent lui enlever le plaisir de performer. On a aussi parlé de notre peur de cet horrible mot, la retraite, c'est-à-dire la vie après le sport. Catherine a appris récemment qu'elle ne s'est pas qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Elle nous partage de façon très courageuse, avec beaucoup de vulnérabilité, comment elle vit cette épreuve présentement. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, le mot « retraite » m'angoisse totalement. Je trouve que ce mot, premièrement, il n'est pas beau. Dans ma tête, tu as 30 ans, tu as 28 ans, peu importe. Pour moi, c'est pas une retraite. Je ne sais pas si tu ressens la même chose, mais pour moi, c'est tellement une connotation négative. J'aimerais ça qu'on le change un jour, mais parle-moi de toi, ta relation avec le mot « retraite ».
Ça fait... Parce que en fait, je me suis pas qualifiée pour mes quatrièmes jeux. J'ai tendance à dire comme ça que j'ai raté. Tu sais, est-ce que j'ai raté? Oui, j'ai raté. Je veux dire, est-ce que j'ai échoué? Non, je pense pas que j'ai échoué. J'ai juste, je me suis pas qualifiée, tu sais. Mais en fait, depuis 4 ans, c'est une question que tout le monde me parle. Mmh. Qu'est-ce que tu fais après ces jeux-là? Tu sais, ta retraite, tout ça, le mot retraite, là. Puis c'est venu à m'angoisser, là. Ça me stressait tellement, là. Avant, j'avais l'impression que là, j'avais juste peur de faire la qualif olympique parce que dans ma tête, tout ce qui était, c'est comme, si je me classe pas, je suis obligée de prendre ma retraite. C'est là, là, c'est, il y en a pas d'autre chose. Tu sais, tout le monde me le dit depuis tellement d'années ouais. que si je me classe pas, c'est obligé d'être la retraite, tu sais. Puis ça me faisait tellement peur, là. Ça me faisait tellement peur. Puis ça me fait encore peur. Je suis là, je mm-hmm. suis là, je me suis pas classée. Puis je suis plus perdue que jamais, tu sais.
Récemment, suite à justement tes essais olympiques, t'as posté un magnifique post sur tes réseaux sociaux. J'aimerais le lire pour les gens qui ne l'ont pas vu, qui puissent comprendre. Je te cite. « Oui, j'ai beaucoup de peine. Oui, je n'ai pas réussi mon rêve. Non, je n'ai pas échoué. Oui, je suis fière de ma carrière. Mais oui, je suis déçue de ma semaine. Oui, j'y ai cru. Non, je n'ai pas d'explication. » Non, je ne sais pas si c'était la dernière fois de ma vie que je monterais sur un bloc de départ. Oui, j'aime encore la natation. Oui, mes courses sont finies pour la semaine. Non, je ne regrette rien. Je ne regrette rien à mon changement de coach. Non, je ne sais pas si je vais vivre à Québec ou à Montréal. Non, je ne sais pas si je vais enseigner dans les prochains jours, car oui, je suis une enseignante au primaire. Non, je ne sais pas quels sont et quels seront mes prochains rêves de ma vie. Oui, je suis perdue. Oui, je sais que je finirai par être fière de moi. Non, ce ne sont pas tous les rêves qui se réalisent, mais oui, c'est important de rêver grand. Ton témoignage en a bouleversé plus d'un. Premièrement, ça m'a émue personnellement. Je pense ta grande vulnérabilité, ton honnêteté, le choix des mots que tu as utilisés. Je pense que c'était la première fois qu'un athlète disait exactement comment elle se sentait. Puis pour moi, ça a été très inspirant de voir qu'il n'y a pas de réponse parfaite. On n'a pas besoin d'être parfaite. Peux-tu nous en parler un peu plus?
Je t'entends lire ce texte-là, puis c'est comme si j'avais encore de la difficulté à l'associer à moi, tu sais. C'est toutes des choses que j'ai écrites, c'est des choses que j'ai ressenties, mais que je les ressens tellement encore. C'est encore tellement frais. Ouais. Tous ces questionnements-là que j'ai sont tellement encore là, dans moi. C'est comme si... Tu sais, t'as dit le bon mot tantôt, en fait. C'est comme si, tu sais, on mettait de côté une partie de nous, là, tu sais. Puis cette partie-là de moi, à laquelle je me suis identifiée pendant toutes ces années-là, c'est comme si j'avais tellement de la difficulté à la laisser aller ou encore à m'accrocher, puis que je me sens tellement, tellement perdue là-dedans. C'est toutes des questions, c'est comme si c'est des questions que je me faisais poser sans cesse par tout le monde. Et par les gens proches de moi, et par les gens de l'extérieur, et par les médias, et par mes amis, par tout le monde. Puis c'est des questions que moi aussi, je me pose. Tu sais, fait que c'est comme si je me répondais à moi-même là-dedans en disant ça. Et par le fait même, je répondais à plein de monde qui me posait toutes ces questions-là. Puis c'est comme si je me sentais tellement toute chavirée à l'intérieur de moi, en fait. Puis toutes ces questions-là, puis toutes les réponses que je t'ai données, on est 2 semaines plus tard, puis c'est exactement les mêmes en ce moment. Je me suis pas retrouvée moi-même encore.
Puis t'as le droit de pas avoir une réponse encore à ce jour, encore moins 2 semaines après. Puis je pense que on s'accorde pas souvent ce droit-là en tant qu'athlète de ne pas avoir les réponses. Tu sais, on est persécuté par des médias. Ouais. On est persécuté par des coachs. C'est quoi ton why? C'est quoi ton objectif? Où tu t'en vas? C'est quoi ton prochain objectif? Là, tu t'en vas où? Là, on le sait pas des fois, c'est quoi notre objectif? On le sait pas comment on va vivre une retraite? On le sait pas, ça va être quoi notre prochaine carrière? C'est des énormes changements. Mais ça pour dire que moi, ce qui m'a inspiré dans ton post, c'était la bravoure que tu as utilisée dans tes choix de mots. T'es pas allé avec des gants blancs. Tu as dit exactement ce que tu pensais, ce que tu ressentais, puis je pense que ça a fait du bien à beaucoup de gens de voir la force et le courage que tu as eu?
Je pense que c'est un deuil à faire qui est difficile. Peut-être pas de la même façon pour tout le monde, mais je pense que c'est un deuil qui est très difficile. Une partie de nous, comme on dit, qu'on abandonne. C'est fou parce que toute ma vie, toute mon adolescence, on m'a dit de me préparer à mon après-carrière. On me l'a dit, là. J'ai continué mes études. J'ai un baccalauréat. Je suis enseignante dans la vie, puis j'ai bien beau avoir été...
Préparée prête, plus que jamais, là.
Préparée. Tu sais, combien de fois, là, j'ai dit le fameux discours que tout le monde voulait entendre. « Ah oui, mais moi, si j'arrête la natation du jour au lendemain, ben j'ai quelque chose d'autre. Je vais être enseignante. » Oui, mais non. C'est pas comme ça que je me sens, là. Je me sens tellement pas comme ça. Dans le sens où, oui, j'ai tous ces aspects-là, mais non, je suis pas prête à le vivre, là, tu sais.
C'est pas des décisions qui sont comme noir ou blanc, je pense, pour tous. Ouais. Il faut comprendre que c'est des choix déchirants. Juste déchirants. Des fois, je compare ça même à une rupture, tu sais, amoureuse. Ah oui, puis même, c'est pire. Parce que c'est toi avec toi-même, mais c'est une partie de toi que tu dis au revoir, puis qu'on aime, qu'on s'identifie. Puis je pense que c'est très normal d'être un peu dans cette zone-là, de pas savoir, puis de pas avoir la réponse encore. Ou je pense que ça fait juste partie du deuil, comme tu l'as si bien dit.
Non, j'allais dire, je sais pas si tu le vis comme ça aussi, mais tu sais, moi, je me pose beaucoup des questions sur ma vie après, dans le sens où, tu sais, j'ai tellement vécu d'émotions avec le sport que c'est comme si je me dis... Comment je vais faire pour retrouver quelque chose que j'aime autant, tu sais, que je carbure autant ces émotions-là? Puis, tu sais, je suis en train de réaliser que ça se peut que ça soit plus jamais pareil, tu sais. Puis ça, ça fait peur.
Wow! Je pense que tu as mis le point sur le plus gros problème, la plus grosse anxiété du mot « retraite ». Je partage vraiment ton point de vue parce que je pense que c'est quelque chose qu'on dit pas assez, mais c'est une vie un peu... être athlète olympique, c'est un peu une vie... dans une bulle. C'est un peu atypique. Surréaliste. C'est atypique. T'es sur l'adrénaline constamment. Puis moi, je pense personnellement que c'est une vie qui devient addictive. C'est une vie qui devient où tu es addict à ce rythme de vie. Ça fait peur de dire au revoir à cette addiction qu'on a pour notre sport, qui est aussi notre passion. Donc, tout ça est mélangé ensemble. Ça fait un beau cocktail. Mais... il faut se donner du temps, puis je pense que c'est ça la clé. Le prochain sujet que j'aimerais qu'on parle, tu en as parlé tantôt, tu es enseignante aussi, avec tous les multiples talents que tu as, tu as réussi à avoir un bac et être enseignante, c'est vraiment fabuleux. Comment que c'est pour toi d'enseigner aux jeunes à tous les jours comme ça?
Bon, là, c'est sûr que j'ai pas encore enseigné à tous les jours. Je fais de la suppléance, par contre, ça fait 7 ans que je fais de la suppléance.
Quand même!
Ouais, non. Depuis le début de mes études, en fait, à Montréal, bon, on sait tous qu'il y a beaucoup de demandes en enseignement. Donc, dès le début de mes études, j'ai commencé à faire de la suppléance un peu dans plusieurs quartiers à Montréal. J'ai vécu toutes sortes d'expériences. En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu être, une enseignante. Avant même de vouloir être une athlète, je voulais être une enseignante, là, tu sais. Donc, ça date d'assez longtemps. Et je me rappelle, quand j'étais toute petite, je jouais au professeur tout le temps. J'ai toujours eu envie de faire ça. Donc, oui, j'adore être avec les enfants. J'adore leur enseigner, partager les connaissances, tout ça. Puis, autant j'ai un côté tellement compétitif dans ma vie, autant c'est quelque chose que je ne veux pas apporter auprès des enfants. J'ai l'impression qu'on a tellement vécu dans un mode de vie. Oui, tu as dit tantôt que c'était sain de faire du sport, tout ça, mais le sport compétitif au niveau qu'on est, je suis pas sûre qu'il est tout le temps sain. Je suis pas sûre, tu sais.
Je suis d'accord.
Puis j'ai l'impression que j'ai tellement encore de petites cicatrices dans mon cœur, tu sais, dans mon esprit de ce que j'ai vécu, que j'ai tellement pas envie d'amener cette espèce de niveau de pression-là puis de compétitivité aux enfants que, en fait, je veux être plus douce avec eux. Tu sais, je veux leur amener une espèce de douceur que moi, j'ai pas été capable de me donner, en fin de compte.
Puis, qu'est-ce que tu penses qui est la clé, justement, pour aider le développement de la bonne santé mentale, de l'estime de soi à un jeune âge? Tu vois-tu la différence que tu peux faire auprès d'eux un peu à tous les jours, justement?
Mais une des choses qui m'a le plus marqué, c'est que à un moment donné, j'étais en suppléance, puis j'ai demandé aux enfants c'était quoi leur rêve. Puis, ils n'en ont pas, les enfants. Ils n'en ont pas de rêve. Puis ça m'a tellement fait de la peine. Là. J'ai l'impression que moi, j'ai tellement carburé aux rêves que ouais. même l'année où j'en avais pas des rêves, j'ai crashé. Que je me suis comme un peu donné cette mission-là à apporter aux enfants, tu sais, de se trouver des rêves, de se trouver des objectifs. Puis ça se peut que ça se réalise pas, tu sais, ça se peut. Mais juste le fait d'avoir des rêves, c'est ce qui nous rend la vie, on dirait, un petit peu plus belle, qui nous motive à nous lever à tous les matins, qui nous motive à trouver des passions, à trouver des choses tellement. Qu'on aime. Puis j'ai été surprise de réaliser que beaucoup, beaucoup de jeunes n'en avaient pas des rêves. Ça m'a fait de la peine, en fait.
Mais je pense vraiment, t'as raison, puis il faut cultiver cette essence-là, ce rêve-là. Comme tu dis, c'est pas le but, c'est peut-être pas, même pas de l'atteindre, mais du moins de l'avoir. Puis en lisant un peu à travers ta bio, j'ai vu qu'une de tes devises préférées, que j'adore aussi, je veux juste la nommer pour toutes les gens qui écoutent, c'est « Ne rêvez pas à votre vie, vivez votre vie de rêve ». J'adore. D'où vient cette phrase-là pour toi?
Ça, mes bios, ils doivent dater de très, très longtemps. Fait que je pense que ça a vraiment été une de mes devises que je me suis accrochée à l'adolescence. Je pense que j'avais tellement une espèce de recherche de rêve. Ou tu sais, à l'adolescence, quand t'es un peu perdu, tu sais pas trop à quoi t'identifier, je me suis tellement raccrochée à ces rêves-là qui étaient moi dans le sport. Mais je pense que la journée où j'ai entendu cette phrase-là, je pense que ça m'a marqué puis c'est resté ancré en moi.
Encore aujourd'hui, clairement. Parce que même avec c'est les vrai. Enfants, tu sais, on l'entend que le rêve nous pousse, je pense, à faire notre mieux en tant que, qu'humain, en tant que aller au bout de notre potentiel. Ouais. Puis je pense que c'est important de puis c'est vraiment génial que tu puisses maintenant faire une part à travers notre société pour inculquer ça à nos jeunes. Donc merci Catherine, c'est vraiment vraiment très, très cool.
Je ne le voyais pas comme ça, mais je prends tes mots, ça me touche. Merci.
En terminant, Catherine, en vue des Jeux de Paris 2024, Équipe Canada lance leur campagne « L'invincible courage ». Évidemment, c'est pour célébrer les athlètes face à tous leurs défis dans leur parcours olympique. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être courageuse? D'être courageuse en tant que femme, en tant qu'athlète, après toute ta carrière que tu as traversée?
Être courageuse, je pense que ce qui résonne en moi, ce serait de faire face à la réalité avec toutes tes difficultés. C'est qu'on a tous des difficultés qui peuvent varier avec les années. Moi, je pense que mon côté mental, peut-être, est un peu plus un gros défi pour moi en ce moment. Puis c'est d'avancer dans la vie, puis de prendre des décisions, puis de pas reculer, même si j'ai ces difficultés-là, puis d'affronter vraiment toutes les affaires qui s'offrent à moi en sachant que j'ai ça derrière moi, tu sais.
Wow! Écoute, merci. Merci, Catherine, d'avoir partagé ton beau parcours avec nous. Je pense que tu vas avoir inspiré plus d'une athlète aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment un réel plaisir d'en apprendre davantage puis de pouvoir avoir ces conversations-là cœur à cœur comme ça, de parler des vraies choses puis de pas avoir peur. Puis je pense que ça va avoir fait vraiment du bien à plusieurs d'entendre autant d'authenticité, mais aussi de résilience dans tous ces beaux mots. Donc, merci Catherine.
Merci à toi.
Je me sens vraiment privilégiée d'avoir eu l'occasion de discuter avec Catherine, d'en apprendre davantage sur son vécu et comment elle a trouvé son fil conducteur dans toutes les épreuves et les étapes de sa carrière. Je l'ai trouvée vraiment courageuse de s'ouvrir de manière si honnête avec nous et surtout dans un moment où elle se sent encore vulnérable, où elle est encore à la recherche de tant de réponses. J'ai également compris comment elle doit être une excellente enseignante dans sa mission d'aider les enfants au primaire à trouver leur voie et à développer leurs rêves. Catherine est un exemple de persévérance par son parcours atypique et elle nous inspire tous. Si vous avez aimé cet épisode, attribuez une note et ajoutez un commentaire, c'est le meilleur moyen de soutenir le balado. Pour suivre les histoires et les résultats d'Équipe Canada aux Jeux de Paris et ailleurs, téléchargez l'application Olympique d'Équipe Canada. Visitez le site olympique.ca ou suivez Équipe Canada sur les réseaux sociaux. Pour visionner des extraits de tous les épisodes de Propulsion, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Équipe Canada. À bientôt!